E-learning,
formation,
neurosciences,
micro-learning,
dyslexie,
apprentissage,
le mapping,
numérique,
pensée design,
apprentissage social,
co-création,
collaboration.
Épisode 7, mon invité du jour, c'est Fabien Morin qui va nous parler de WookLab, une application qui pourrait bien changer la vie des enseignants. Fabien Morin, bonjour.
Bonjour Marco.
Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour nous parler d'une application qui s'appelle
WookLab.
WookLab, ok. Et est-ce que vous pourrez vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous faites à WookLab ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Fabien Morin, je suis responsable du développement de WookLab en France, puisqu'on est une start-up belge. On a ouvert un bureau à Paris l'an dernier. Moi, en deux mots, j'ai fait un parcours en école de commerce en France. J'ai eu l'occasion de monter une première start-up dans les headtech, dans l'apprentissage de langues étrangères pendant mes études. J'ai travaillé un petit peu dans le monde de l'édition également et toujours sur des sujets autour de l'innovation et du numérique et avec ces sujets autour de l'éducation qui m'intéressaient depuis toujours. Et donc, j'ai regroupé tous ces sujets-là chez WookLab.
Ok, et puis WookLab, c'est une start-up, vous l'avez dit. Alors, pourquoi ce choix de démarrer une start-up plutôt qu'une entreprise de type ordinaire ?
Je crois que ce qui plaisait au fondateur et moi, ce qui m'a tout de suite convaincu en rejoignant WookLab, c'est cette capacité à faire des choix radicaux en termes d'innovation, à aller plus loin que les usages existants et à proposer du coup un outil qui sorte complètement de ce que les enseignants utilisaient avant cela. Et aujourd'hui, on est conforté dans ce choix-là. On est capable de faire évoluer notre produit très rapidement, d'être réactif face aux demandes de nos utilisateurs. Et cette collaboration, du coup, start-up et monde académique, université, grandes écoles en France, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien.
Le monde académique, les écoles, c'est vraiment votre cœur de cible ou bien les entreprises peuvent aussi vous intéresser ?
Les entreprises nous intéressent aussi. Maintenant, notre cœur de cible historique, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est vraiment le monde de l'enseignement supérieur. WookLab, c'est une plateforme qu'on a développée avec des enseignants, avec des chercheurs en sciences cognitives notamment, pour développer vraiment un outil au service de l'enseignant, pour qu'il puisse améliorer et mieux piloter ses cours, et puis un outil au service de l'apprentissage des étudiants. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a cherché à travailler. Aujourd'hui, il se trouve que les entreprises sont intéressées par cette expertise-là. On entend souvent que l'entreprise est le nouveau lieu maintenant où on va apprendre et se former tout au long de la vie. Et donc, naturellement, un outil d'apprentissage, ça les intéresse. Maintenant, voilà, aujourd'hui, historiquement, on travaille avec l'enseignement supérieur et ça reste aujourd'hui là qu'on fait l'essentiel de notre activité.
D'accord. Et en tant que start-up, vous avez eu un accompagnement via un incubateur ou une autre structure à un moment donné ?
On est passé notamment par l'incubateur de l'EM Lyon, qui est un de nos partenaires maintenant, et donc qui nous a accompagnés dans le développement de la start-up. Et puis l'intérêt aussi de s'appuyer sur un incubateur comme ça d'une école, ça a été naturellement d'avoir ce réseau-là et donc de faciliter les relations pour devenir ensuite un partenaire. Et c'est aujourd'hui un de nos partenaires privilégiés dans l'écosystème des business schools en France.
Donc, c'est un partenariat international, puisque je rappelle, vous êtes une start-up bruxelloise qui crée un bureau à Paris. Donc, vous êtes d'ailleurs le représentant du bureau de Paris, si j'ai bien compris.
Oui, exactement. Donc, on est une start-up belge. Le siège est à Bruxelles et on a eu de plus en plus de partenaires en France. Et donc, c'était important de pouvoir se rapprocher du coup de ces partenaires-là, de mettre en place aussi une équipe qui est connue, le système académique français,
ouais.
Qui est différent naturellement de celui qu'on connaît en Belgique. Et donc, c'est posé cette question-là. Et donc, l'an dernier, on a fait le choix de venir ouvrir un bureau à Paris et de monter une petite équipe du coup à Paris. Aujourd'hui, on est 3 personnes. On continue à faire grossir cette équipe-là. D'ici à cet été, on recrute encore 3 personnes. Et donc, petit à petit, ça se met en place.
Ok. Et est-ce que c'est plus facile de démarrer à Bruxelles ou de démarrer en France pour une start-up comme la vôtre ?
Je pense que c'est des écosystèmes qui sont différents. On connaît la place parisienne comme étant l'un des écosystèmes d'innovation et start-up qui rayonnent beaucoup en Europe et qui commencent à rayonner dans le monde. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives, la création de Station F par exemple, a, je pense, beaucoup contribué à ça. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont contribué à faire émerger Paris, qui était un petit peu en dessous, évidemment, de ce qu'on peut connaître de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple. Donc voilà, un écosystème très porteur à Paris. L'expérience qu'on a eue avec WookLab en Belgique et à Bruxelles a été très positive aussi, puisqu'on a réussi à développer un beau réseau qui nous a permis de rayonner également, à la fois dans le monde académique, auprès d'universités, dans l'écosystème médiatique également, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de contacts et de retombées intéressantes. La trajectoire commencée à Bruxelles, aujourd'hui s'implanter à Paris, je trouve est intéressante et aujourd'hui, en tout cas, on en est content.
Et Lyon aussi. Lyon est aussi un pôle important dans cet écosystème. Enfin, il y a quelques pôles comme ça, quelques villes en France qui sont aussi en train de progresser énormément dans tout ce qui est nouvelles technologies.
Ouais, bien sûr, il se passe des choses intéressantes à Lyon. Bordeaux est un écosystème qui se développe aussi progressivement. Nantes, de la même manière. On commence à voir quelques boîtes qui installent tout ou partie de leurs équipes dans ces villes-là. C'est intéressant, effectivement, de voir comment tout ça évolue ces dernières années. Ouais.
WooClap, d'où vient ce nom ? Et qu'est-ce que ça signifie pour les auditeurs non anglophones ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une signification précise. L'idée du clap renvoie évidemment à l'idée d'applaudir et donc à cette idée d'interaction entre un animateur, un enseignant par exemple, et puis son audience. Et donc, il y a cette idée d'inviter à applaudir, d'inviter à interagir. Et c'est le cœur de notre outil que de rendre possible cette interaction, justement.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment l'objectif de WooClap, c'est vraiment sa raison d'être. C'est de transformer les cours ex cathedra en formation participative. Enfin, si on utilise WooClap normalement, de manière judicieuse, ça multiplie la participation par un facteur X.
Oui, exactement. L'idée, c'est de dire on passe du cours traditionnel tel qu'on peut le voir encore, où l'enseignant a sa présentation PowerPoint et va dérouler ses slides pendant 2 heures, au risque de tomber un petit peu parfois dans un monologue. Et en fait, avec WooClap, il va pouvoir intégrer du coup dans cette présentation des questions interactives. Et à ce moment-là, du coup, évidemment, créer de l'interaction avec les étudiants. À la fois, du coup, ça permet de casser ce côté monologue, qui est super intéressant aussi, je trouve, c'est que, enfin, l'expérience des enseignants, c'est que dans une salle de classe, il y a 5-6 étudiants qui participent à l'oral, et puis le reste de la classe est plutôt passive et observe ce qui se passe. Et donc, l'intérêt là, c'est aussi vraiment de créer de l'inclusion et de l'implication en faisant en sorte que, d'un coup, tout le groupe d'étudiants va participer, va donner son avis. Et donc, ça permet de mieux cerner où est-ce que chaque étudiant en est. Ça permet aussi de faire émerger de l'intelligence collective dont on parle beaucoup. Et donc, ça a beaucoup de vertus de ce point de vue-là. Ouais.
Ok, alors ça se présente comment, WooClap ?
Alors, côté enseignant, c'est une plateforme web. Ils n'ont pas d'application à télécharger. Donc, une plateforme web qui leur permet du coup de créer leurs questionnaires et ensuite de les lancer lorsqu'ils sont en cours. Et côté étudiant, les étudiants scannent un QR code ou rentrent un lien dans leur navigateur directement, sur leur smartphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur également. Et ça leur permet immédiatement de participer. De la même manière, il n'y a pas d'application mobile à télécharger. C'est un choix fort qu'on a fait. On sait que le téléchargement d'une application, c'est un frein aux usages. On sait qu'en termes d'inclusion, c'est quelque chose qui est compliqué aussi parce que si on n'a pas l'iPhone dernier cri, l'application ne marchera pas. Donc là, l'idée, c'est de dire quel que soit l'équipement qu'a l'étudiant, tant qu'il a un appareil qui est connecté à Internet, il va pouvoir participer.
Oui, il a exactement le même contenu et le même fonctionnement que les autres, quelle que soit la qualité de son appareil au départ.
Ouais. Exactement. Et on a ajouté une fonctionnalité qui permet de participer par SMS également. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là et de dire, en fait, même si je n'ai pas un smartphone, je vais pouvoir malgré tout participer et donner mon avis. C'est quelque chose d'important.
Oui, tout à fait. En quoi est-ce que WooClap se démarque de concurrents comme Kahoot ou comme Zeetings, par exemple ?
Alors, c'est des plateformes qui ont plutôt, dont le point de départ, ça a plutôt été de dire, quand on est dans des événements et quand on est dans des réunions d'entreprise en particulier, on est dans des moments qui sont un petit peu pénibles et où on a tendance à s'endormir. Et donc, ces plateformes-là se sont posées la question de comment est-ce qu'on fait pour rendre ces moments plus ludiques.
Oui.
Nous, notre point de départ, ça a été de dire, le contexte, c'est celui de l'enseignement supérieur, d'un enseignant face à ses étudiants. Comment est-ce qu'on crée un outil pour l'enseignant et pour l'apprentissage des étudiants ? Et donc, l'approche est différente. WooClap est vraiment un outil pédagogique qui va permettre aux étudiants à la fin de mieux apprendre, alors qu'un outil comme Kahoot, par exemple, on est sur comment est-ce qu'on va rendre une réunion plus sympa. Quoi.
Oui, une réunion ou un test. Moi, je l'ai utilisé, par exemple, dans des formations FLE.
Ouais.
Et alors, si vous dites, alors, maintenant, interrogation ou maintenant, examen, vous voyez tout de suite les gens qui deviennent pâles, la figure qui change. Je vous dis, on va se faire un Kahoot. Ah, mais ils sont tout contents parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un test. Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi une limitation de l'outil. C'est pour ça que j'ai préconisé d'ailleurs un peu de hacker Kahoot et d'en faire un outil collaboratif en organisant des activités autour et pas... Parce que sinon, c'est un outil qui peut rendre les participants extrêmement passifs, finalement.
Ouais. Et effectivement, Kahoot peut être utilisé dans un contexte de formation ou de cours. C'est plutôt un usage secondaire et un petit peu dérivé du cas d'usage de départ. Et c'est un outil qui est limité. C'est le retour qu'on a des enseignants qui ont pu utiliser Kahoot et qui maintenant sont passés sur WooClap. C'est-à-dire que vous allez faire des QCM, par exemple. L'idée avec WooClap, c'est qu'on a développé une vingtaine de types d'activités pédagogiques qui permettent de faire des choses très variées. Et donc, il y a non seulement des QCM, mais vous pouvez demander à vos étudiants de choisir une zone sur une image par rapport à une question donnée. Vous pouvez créer des nuages de mots, vous pouvez demander d'ordonner, de prioriser des propositions, de noter des propositions de 1 à 10, vous avez des textes à trous. Voilà, il y a vraiment tout un éventail d'activités qui permettent à l'enseignant d'être très créatif dans ce qu'il va pouvoir proposer aux étudiants, de proposer des formats qui sont très variés et qui font que du coup, on renouvelle à chaque fois l'attention des étudiants. Parce que ce que nous disent les enseignants, c'est que poser 20 QCM à la suite aux étudiants, à la fin, ils ont compris, quoi.
Et donc, non seulement ils ont compris, mais en plus, on sait que les faiblesses des QCM, si vous avez un peu de logique ou si la question est un peu mal formulée, quelquefois, vous avez une question et puis vous avez une image qui accompagne la question dans laquelle se trouve la réponse.
Ouais, mais...
Et puis certains étudiants sont tellement bien rodés au QCM que même sans avoir étudié, ils en déduisent par simple logique la réponse. Et puis si on vous sert 20 QCM à la suite, c'est clair que l'ennui vous attend au coin avant le dixième, quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est garanti.
Nous,
L'avantage d'avoir différents tests comme ça, c'est que vous vous adressez aussi à différentes compétences cognitives. Et ça, c'est important dans l'apprentissage, je pense.
Oui, bien sûr, ça permet vraiment de varier effectivement les modalités d'apprentissage. Et ce qu'on a vu effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, on a beaucoup travaillé sur ce sujet de l'attention. Et donc, le point de départ, ça a été de dire un cours magistral de 2 heures. Évidemment, l'attention décroît au fil du temps. C'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est naturel. Et donc, ce format-là n'est pas efficace. Ce qu'on préconise, c'est plutôt de travailler par petits blocs de 15-20 minutes où on va alterner des activités pédagogiques différentes, un peu de cours magistral, puis des travaux pratiques, une discussion en classe, des travaux de groupe. Comme ça, voilà, rester tout sur un niveau d'attention qui est optimisé tout au long de la séance. Mais en fait, de la même manière que 2 heures de cours magistral, c'est pas efficace, 2 heures de QCM à la suite, c'est pas non plus un format qui est efficace, quoi. Et donc, l'idée est de dire comment est-ce qu'on met ça entre différents blocs, comment est-ce qu'on en fait des petits moments au cours de la séance qui vont permettre de renouveler l'attention, de réimpliquer les étudiants pour ensuite passer d'une notion à l'autre.
Ça correspond tout à fait à ma conception pédagogique où j'essaye justement d'amener de la variété pour m'adresser à différents types de compétences et m'assurer qu'effectivement le taux d'attention reste maximum. Sinon, au bout des 20 minutes, c'est clair que l'hippocampe est aux abonnés absents et vous parlez tout seul, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et est-ce qu'il y a des domaines où WooClap pourrait ne pas fonctionner ?
On n'en a pas l'expérience, en tout cas. Peut-être prétentieux de dire non.
vous n'avez pas de retour, en tout cas, qui vous confirme que dans certains domaines, ça a été un flop complet ou...
Non, en fait, l'intérêt, je pense, c'est que la plateforme vous donne le cadre, les différentes typologies d'activités que vous pouvez proposer aux étudiants. Mais ensuite, c'est à vous, en tant qu'enseignant, de créer votre contenu. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'ensuite, ce cadre-là va s'adapter à chaque discipline, à chaque niveau. Et ce qu'on voit, c'est de fait qu'on a des enseignants qui utilisent la plateforme pour des élèves de 10 ans et dans l'enseignement supérieur et dans la formation professionnelle jusqu'à des apprenants qui ont 60 ans et dans des disciplines aussi variées que la médecine, la littérature. On forme des opérateurs de plateformes pétrolières sur WooClap, des étudiants en pédagogie. Voilà, on passe par vraiment plein de sujets différents et à plein de moments de la vie de l'apprenant différents.
Oui, je pense que le cadre est suffisamment varié que pour permettre la créativité et donc l'adaptation à toutes les disciplines.
Oui, exactement. Ouais.
Une fois de plus, c'est la pédagogie qui va faire la différence et la créativité des formateurs ou des enseignants qui vont faire la différence s'ils tirent vraiment parti de toutes les potentialités de l'outil. Comment se procurer WooClap ?
Très simplement, ça se passe sur wooclap.com, sur notre site internet où les utilisateurs peuvent créer un compte gratuit qui leur permet du coup de prendre en main la plateforme et de commencer à tester l'outil pour se rendre compte de comment est-ce que ça fonctionne et de ce que ça peut apporter. Et ensuite, il y a différents modèles de licence du coup qui permettent d'aller plus loin et de pouvoir utiliser l'outil plus largement.
Ok, moi j'avais compris que vous offriez la licence aux enseignants. Est-ce que j'ai mal compris ou...
Alors, on a fait le choix d'offrir les licences pour les enseignants de l'enseignement primaire et secondaire.
Secondaire, ah ok.
Voilà. Et ensuite, on a des modèles de licences pour les établissements, pour les enseignants également dans l'enseignement supérieur et évidemment pour le monde de l'entreprise aussi.
Ok, mais donc ça veut dire que pour les enseignants primaires et secondaires, c'est entièrement gratuit pour eux.
Ouais.
Et ils ont la version complète ou bien ils ont une version bridée par rapport à...
Ils ont la version complète. C'est un choix fort qu'on a fait.
Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question, s'il est bridé ou non, parce que c'est quand même assez rare qu'on offre une version complète comme ça, gratuitement.
Ouais, le constat qu'on a fait, c'est que le mode de fonctionnement dans le primaire, dans le secondaire, est différent de ce qu'on peut connaître dans l'enseignement supérieur, sur le plan administratif et financier notamment. Nous, notre vision, c'est de faire en sorte que la pédagogie évolue à tous les niveaux pour la rendre plus efficace. Et donc, on s'est dit que c'était pertinent et intéressant pour les enseignants de ces niveaux-là, avoir accès à l'outil facilement. Tout le monde s'y retrouve aujourd'hui et je crois que c'est un plus qui plaît bien aux enseignants, effectivement.
Oui, ça je peux croire. Et alors, bon, si j'utilise WookLab, est-ce que je peux y intégrer des éléments extérieurs, comme par exemple de la vidéo, du son ou d'autres médias ?
Ouais, bien sûr. L'idée, justement, ça a été de partir des usages des enseignants. Et donc, ce qu'on voit, c'est que en tant qu'enseignant, j'ai ma présentation PowerPoint, une vidéo sur YouTube éventuellement, peut-être des questionnaires interactifs. Et la problématique qui nous est remontée très rapidement, c'est du coup, j'ai au moins 3 fenêtres sur lesquelles il faut que je passe, je navigue de l'une à l'autre. Et ça devient vite compliqué et on s'en mêle les pinceaux en tant qu'enseignant. Et donc, justement, on a travaillé pour intégrer tout ça. Et donc, aujourd'hui, quand vous avez votre questionnaire WookLab, vous pouvez donc intégrer sur la plateforme vos présentations PowerPoint, différents formats en réalité. Vous pouvez intégrer vos vidéos, des formats audio également. Et l'idée, donc, c'est vraiment de construire un unique support. Et donc, l'enseignant lance tout simplement son diaporama PowerPoint et après une slide, va pouvoir y intégrer sa question WookLab, une vidéo ensuite pour illustrer avec un exemple, par exemple. Et donc, vraiment scénariser son cours grâce à ça avec ce support unique.
C'est ça. Donc, il a un vrai support multimédia unique qui lui permet effectivement d'accomplir toute sa présentation et toute sa session avec un seul compte. Parce que ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre fréquemment dans le Blended Learning. C'est que si vous n'avez pas une plateforme ou un support unique, pour une session, vous vous retrouvez avec 4 comptes et vous passez plus de temps à aider vos étudiants à se connecter aux différents comptes qu'à donner votre leçon au bout du compte.
Ouais, effectivement. Et donc, il y a cette dimension-là d'intégration, du coup, avec les outils existants. On a beaucoup travaillé aussi et encore sur une autre dimension en termes d'intégration, c'est comment est-ce qu'on intègre WookLab dans l'écosystème d'outils d'un établissement. Mm-hmm. Puisque les établissements ont en général un SSO avec leur compte, du coup, le compte des enseignants, des étudiants, université. Ils ont en général un LMS, Moodle, par exemple, de la même manière avec un compte à nouveau. Et donc, on a travaillé pour intégrer WookLab à ces différents éléments. Et donc, par exemple, dans le LMS, WookLab va s'intégrer dans le LMS, ce qui va permettre aux enseignants, aux étudiants de se connecter directement avec leur compte Moodle et donc vraiment que ce soit tout à fait transparent pour eux et qu'ils n'aient pas justement ce sujet d'avoir à nouveau un nouveau compte déconnecté de ce qu'ils connaissent déjà.
Et cette intégration, elle se fait comment ? Par une clé LTI ou par un API ou
un plugin ? Ouais, c'est dans le cas précis de Moodle, c'est un plugin à installer. Donc, c'est quelque chose qui prend 5 minutes pour l'installer sur la plateforme. Et donc, nous, de notre côté, on fournit simplement des clés d'accès qui permettent d'activer ce plugin. Ouais.
OK. Et sur d'autres solutions, ça peut fonctionner aussi à part Moodle ?
Oui. Et donc, cette fois-ci, du coup, sur d'autres LMS, c'est avec le système LTI, du coup.
LTI, oui. C'est une norme qui commence à s'imposer un peu partout aussi.
Oui, effectivement.
Ça fonctionne plutôt bien, oui. Ouais. Moi, je l'utilise sur notre plateforme de formation en ligne avec différents outils comme Mindomo, par exemple, les cartes mentales. Bah, vous avez un seul compte et tous vos participants peuvent en profiter sans devoir eux aussi recréer de nouveau des comptes et des choses. OK. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un, à un enseignant justement qui veut démarrer avec WookLab ? Quelle est la bonne démarche pour l'utiliser, d'abord pour démarrer soi-même et puis pour l'utiliser intelligemment avec sa classe ?
Alors, je pense le premier conseil, ce serait de l'utiliser progressivement, surtout pour des enseignants qui n'auraient pas utilisé ce genre d'outils jusqu'à présent, parce que c'est quand même un changement dans les méthodes, dans les pratiques pédagogiques. Et donc, commencer par, dans un cours, poser 3-4 questions. Et ça permet de se familiariser avec l'outil, de comprendre quelle est la réaction des étudiants. Et en fait, c'est ce qu'on voit souvent, c'est des enseignants qui commencent par ça et qui, du coup, se familiarisent et petit à petit vont aller rajouter différentes briques jusqu'à intégrer dans l'ensemble de leur cours, en fait, l'outil au vu des retours des étudiants, quoi. Donc vraiment, y aller progressivement, je pense que c'est important. Prendre en compte les retours des étudiants aussi, parce qu'ils sont aussi moteurs, du coup, dans ce genre d'initiative. L'idée, c'est vraiment, avec un outil comme celui-ci, de s'intégrer vraiment dans les usages qu'ils ont déjà. Les étudiants ont tous un smartphone dans leur poche, et donc quand on leur demande sortez votre téléphone en cours, ça va à rebours de l'expérience qu'ils connaissent déjà, et ils adorent ça. Donc en fait, ils vont avoir des retours et ils vont pouvoir vous dire là, l'activité trouvée sur une image, c'était génial, on a adoré. Et donc en tant qu'enseignant, je vais pouvoir reprendre ça à mon compte pour, du coup, pouvoir adapter certains de mes contenus sous ce format-là. Et du coup, il y a vraiment cet aller-retour qui, je pense, peut être intéressant entre l'enseignant et les étudiants.
Et les étudiants, il y a une vraie conversation qui se crée là, à ce niveau-là.
Ouais.
Et donc, on a parlé des licences gratuites pour les enseignants du primaire et du secondaire, mais par contre, pour les écoles, enfin pour le monde académique, vous pourrez donner un ordre de prix pour les différentes licences ou...
Oui, bien sûr, la licence pour un enseignant, on est sur des licences à 300 euros par an. Donc voilà, pour ce modèle-là donc de licence individuelle. Et ensuite, on propose aux établissements des licences institutionnelles. Donc là, ce qu'on propose, c'est un forfait global qui donne accès derrière à un nombre de comptes illimité pour les enseignants de l'établissement. Et là-dessus, ça va dépendre à chaque fois de la taille de l'établissement,
oui, du volume
avec lequel
de...
on travaille.
Ouais. Et pour la licence individuelle, est-ce qu'il y a une limitation dans le nombre d'utilisateurs ou bien...
Non.
Donc c'est 300 euros par an pour un enseignant, mais un nombre d'utilisateurs illimité.
Ouais, exactement. De la même manière, quand on sur les licences institutionnelles, on a fait le choix d'avoir une offre qui est, je crois, simple et très lisible. Une fois que vous avez votre licence derrière, c'est illimité en nombre de participants, les types de fonctionnalités que vous avez. Voilà, vous posez
oui,
plus.
Vous ne devez pas vous arracher les cheveux parce que vous êtes à 300 étudiants et votre limite c'est 302. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous en virez deux ou bien...
Oui, ce qui arrive avec d'autres outils, ouais.
Avec d'autres outils. Oui, ben j'ai connu ça, c'est pour ça qu'on parle de cette manière-là. Et est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un scoop à partager avec nos auditeurs, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien?
Une bonne nouvelle, peut-être, on a dépassé tout récemment, on l'a annoncé la semaine dernière, les 200 000 enseignants utilisateurs de la plateforme.
Wow.
Dans plus de 150 pays dans le monde. C'est une très bonne nouvelle. On a doublé ce nombre d'utilisateurs en moins de 6 mois et on a plus d'utilisateurs qui utilisent plus souvent la plateforme. Donc voilà une belle croissance qui valide la pertinence de l'outil, modèle aussi qu'on est en train de développer. Des bonnes nouvelles de notre côté, quoi.
Ok, mais si vous en avez d'autres de bonnes nouvelles, n'hésitez pas à nous faire signe et je serai ravi de vous recevoir de nouveau dans une nouvelle émission.
Avec grand plaisir.
Fabien Morin, merci. Merci infiniment. Et puis,
merci Marco.
Probablement à bientôt avec de bonnes nouvelles alors.
Merci, à bientôt.
Au revoir. L'épisode d'aujourd'hui est à présent terminé. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser un message sur Anchor, notre site de podcasting. Dans 15 jours, un nouvel épisode avec Jacques Rodet sur le tutorat pour la formation en ligne. À bientôt.